Radio Cultura.
Com.
Je crois que les humains sont tous un peu pareils, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est artiste qu'on a plus de d'entrée vers, je ne sais pas, vers le merveilleux, vers la poésie. Non, je crois que les qualités à percevoir, à ressentir, sont des qualités humaines et ce sont pas les artistes qui en ont plus que les autres. Simplement, sans doute qu'il faut non pas des dispositions, mais une envie naturelle. Ce qu'on peut appeler le don, c'est pas forcément une capacité à savoir faire des choses que d'autres ne savent pas faire, mais c'est simplement avoir un goût, une attirance naturelle, qu'on peut l'avoir pour, je ne sais pas, pour le rugby, pour la chasse, il y a des tas d'autres spécialités pour lesquelles moi je peux ne pas avoir d'intérêt et pour lesquelles d'autres ont des intérêts. Donc c'est du même ordre, il faut avoir une attirance naturelle. Voilà, bonjour, je m'appelle Peyo Sabalette et j'ai le plaisir de travailler au Conservatoire de musique de Bayonne. Donc j'enseigne l'écriture, la composition et il y a tout un chantier dans ce pays à mener autour de la composition et c'est ce qu'on essaie de faire, moi et mes nombreux collègues. Ce n'est pas une discipline facultative, c'est une option que les jeunes choisissent quand ils veulent écrire de la musique. Souvent par conservatoire, on entend musique classique, musique ancienne, académie, scolastique, c'est pas exactement ça. Hein. Les jeunes qui veulent composer viennent ici pour écrire leur musique. Et ça peut être, c'est souvent d'ailleurs de la chanson, de la musique de variété, et donc on les forme pour qu'ils aillent vers ce qu'ils ont eux envie de faire. On n'essaie surtout pas de formater sur le plan, je ne sais pas, esthétique ou comme ça, les jeunes pour qu'ils aillent tous vers le même avenir. C'est pas exactement cela. Donc la composition, c'est une discipline effectivement un petit peu mature. Normalement, les personnes qui viennent étudier ici la composition ont déjà un parcours instrumental ou un bagage musical réel. Et donc, je les accompagne dans cette discipline-là. Alors, cette discipline-là, c'est pas simplement une discipline, entre guillemets, d'ordre poétique, hein. C'est très technique, évidemment. Quand on écrit pour les instruments. Chaque instrument a des particularités. Et quand on mixe tous ces instruments, ça donne encore d'autres rencontres, d'autres climats. Et tout ceci s'étudie à travers toutes les musiques qui ont été écrites. On sélectionne un tout petit peu tout ce qu'il y a de plus probant, de plus formateur pour travailler sur tel ou tel aspect de la technique. Mais ce sont des éléments techniques. Après, ma foi, les élèves font ce qu'ils veulent en dehors du conservatoire ou au conservatoire et voilà. Donc ça, c'est important d'insister sur le fait que c'est quelque chose d'ouvert. Et j'ai aussi beaucoup, puisqu'on est ici au Pays Basque, j'ai aussi beaucoup de musiciens issus de la musique traditionnelle basque qui viennent et dans mon cours en tout cas, j'essaie de les accompagner pour aller au bout de ce qu'ils ont envie de faire et parfois ce sont effectivement des créations autour de textes basques et dans la couleur traditionnelle basque ou dans les couleurs qu'ils désirent faire. Alors bien sûr, comme dans toute discipline, la composition, tout ce qui est création, c'est toujours l'alliage entre effectivement la passion. La première des choses, c'est la passion. Quand on est passionné, ma foi, on a moins à se poser de questions sur savoir s'il faut travailler, avoir envie ou pas de travailler. Cette passion nous attire naturellement sur quelque chose qu'on appelle d'ailleurs pas un travail, qu'on appelle la pratique d'une passion. Mais c'est donc la rencontre entre effectivement cette volonté de chercher, de rêver, et ensuite cette capacité d'organiser sa vie aussi pour pouvoir réaliser. On est tous un peu écrivains, sauf qu'on n'écrit pas de romans, quoi, parce qu'il faut toute une discipline de vie, il faut avoir écrit énormément pour pouvoir sortir des livres. Pourtant, on sait tous écrire et on aimerait beaucoup dire par l'écriture. Et je crois que c'est du même ordre. C'est du même ordre. Il faut vraiment une discipline longue qu'on met en marche, et le premier moteur, c'est la patience, c'est évident. On n'échappe pas au monde dans lequel on vit et on vit dans un tourbillon d'informations, de brassages, de mixages culturels qui sont là et qui sont notre matière d'hommes du 20e et 21e siècle, quoi. Femmes, bien sûr. Donc la composition est à l'image de tout ça, c'est-à-dire que non, il n'y a pas une esthétique moderne ou une esthétique classique. Il y a énormément de musique qui s'est écrite de types différents. Toutes les musiques de société, de danse, qu'on peut entendre dans les boîtes de nuit, qu'on peut entendre dans les salles de concert, le jazz, les music world. Il y a une quantité énorme de musique, voilà. Je vais un tout petit peu quitter la question que vous me posez, mais pour y revenir très très vite. On sait comment, à un moment de notre vie, on copie jusqu'à un certain âge, quelque part, les actes de nos parents, et à un moment donné, on se dit, non, je ne suis pas le modèle réduit de mes parents, j'ai ma propre personnalité. Et cette personnalité, on l'a fait comment? On l'a fait en découvrant un petit peu ce qu'il y a autour de nous, en étant attiré par certaines choses qui n'ont pas touché nos parents, ou qui ne touchent pas nos parents pour des raisons d'époque, ou simplement d'intérêt, et puis parce qu'on est des personnalités uniques tout le temps. Et donc, dans la composition, c'est la même chose. Dans cette quantité de propositions qu'il y a aujourd'hui, vraiment des musiques les plus faciles, des musiques de rue, jusqu'aux musiques de pure recherche, où on passe vraiment par des techniques informatiques, etc., il y a un panel énorme. Alors, c'est l'élève lui-même qui choisit, enfin l'élève ou allez, le jeune artiste qui choisit lui-même un tout petit peu ce qui le fait avancer, ce qui le fait rêver, quoi. Et donc, nous, on essaie de l'accompagner là-dedans, et à Bayonne, effectivement, on peut leur proposer aussi d'utiliser l'électroacoustique, par exemple, s'ils sont attirés par cette discipline. Voilà. Pour résumer, en termes de composition, effectivement, c'est l'élève qui choisit lui-même un tout petit peu vers quoi il va aller. C'est évident qu'on va pas lui dire si tu aimes le jazz, fais pas de jazz parce que c'est pas ce que l'on fait ici. Évidemment, on va le laisser aller vers sa direction et son attirance. Il y a quand même des bases techniques qui ne sont pas archi nécessaires. Certains, par passion, les apprennent, les développent eux-mêmes, ces bases-là. Mais on donne des bases techniques et puis après, avec ses premières armes, ma foi, faut sauter à l'eau, quoi. Le pas vers l'enseignement, c'est d'abord que les compositeurs doivent aussi gagner leur vie, c'est une chose tout à fait naturelle, et par la composition aujourd'hui, à moins de faire de la musique extrêmement alimentaire, je parle uniquement de la musique de publicité, et encore, faut vraiment être dans ce créneau-là, on ne gagne pas sa vie avec. Du reste, tous les grands noms de la musique qu'on connaît au XXe siècle, si on pense à des Pierre Boulez, à d'autres noms que je peux vous citer, en fait, ils ont tous un autre métier musical. Mais la composition elle-même, uniquement par les droits d'auteur, c'est assez rare. On n'est pas dans le domaine de la littérature où certains, et encore assez rares, auteurs arrivent à gagner leur vie. Marc Lévy va gagner sa vie avec, mais des compositeurs qui arrivent à la même manière à gagner leur vie, ils sont vraiment rares, oui. Voilà. Donc, en fait, on a tous une autre activité de transmission, d'enseignement. Maintenant, c'est un parcours particulier, c'est-à-dire qu'on est obligé de passer des concours qui dépendent du ministère pour pouvoir intégrer des grandes écoles. Donc ça, évidemment, quand on décide de transformer une passion en fiche de paix, c'est pas si simple. Il faut malheureusement passer aussi par des concours qui permettent d'entrer dans ce genre d'établissement. Ouais. C'est difficile parce qu'on ne sait jamais vraiment quoi. C'est vraiment comme écrire un roman. On peut avoir beaucoup d'idées fortes en tête, mais essayons de les traduire vraiment par l'écriture, alors qu'on sait tous écrire, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Et encore de ne pas arriver à un résultat qui soit pas banal quoi. Créer un petit univers uniquement avec une matière que l'on connaît, c'est-à-dire les mots, les verbes, les conjugaisons, c'est très très délicat. La musique, c'est un peu du même ordre, on connaît bien la technique, la grammaire des sons, mais voilà, c'est une recherche, c'est du même ordre que le travail d'un romancier ou d'un journaliste qui va écrire aussi, faire un article qui sort de l'ordinaire, qui a la capacité aussi d'ouvrir une petite fenêtre, une invitation à je ne sais quoi, c'est difficile, c'est très difficile, évidemment. C'est du même ordre, je pense, c'est du même ordre. On a la chance d'avoir vraiment des relations intéressantes avec les élèves, chose que peut-être qu'on n'a pas dans l'enseignement secondaire, où tout le monde n'a pas forcément. Les élèves qui viennent chez nous viennent par choix, et donc ils sont ouverts à. Donc ça c'est bien. La difficulté, elle est grande, parce que, évidemment, je ne sais pas si on devient sensible ou artiste à l'étudiant. J'en suis pas persuadé. On est de la matière humaine, qu'on soit adolescent, adulte, élève ou enseignant, on est tous fait de la même matière. Alors d'un côté, il y a la sincérité de ce que l'on veut dire. De l'autre côté, il y a les moyens pour le dire. Et parfois, il y a des petites difficultés parce que les élèves écrivent, on va dire, avec sincérité. Ce qu'ils écrivent, ils les écrivent réellement. Mais ils ne mesurent pas parfois que certaines choses sont finalement mal formulées, qu'entre l'idée qu'ils ont et ce qu'ils ont réalisé sur le papier, il y a quand même une belle différence. Et donc, on essaie de leur montrer comment l'idée est belle, mais qu'il faut la travailler encore, vous voyez, pour arriver à un autre résultat ou... Voilà. Et parfois, il n'y a pas de proposition aussi. Il peut arriver que des élèves viennent, non, je sais pas quoi faire. Et enfin, ils sont quand même dans votre classe, donc on leur fait quelques propositions, puis on les invite à rentrer dans l'écriture comme ça, oui. Fribourg, Saint-Jean-de-Luz, donc ce sont les deux villes qui portent le nom de Maurice Ravel, hein, parce qu'il est resté longtemps là-bas. Et donc cette ville, plus un grand pianiste, Jean-François Esser, m'ont commandé une œuvre en partant d'une formation instrumentale que Maurice Ravel avait déjà utilisée. Cette formation instrumentale se trouve dans les chansons Madécas, qui est une œuvre assez militante de Ravel. Et donc je suis parti sur la même formation, et puis j'ai écrit une autre œuvre, donc effectivement, qui s'appelle La Cité Invisible. C'était créer un monde imaginaire qui permette de revivre un tout petit peu le sentiment du merveilleux qu'on peut avoir dans le monde de l'enfance ou de l'adolescence. Donc c'était la volonté d'essayer de traduire un peu ce sentiment. Voilà, la musique a quelque chose d'absolument formidable. Enfin, quand on est très très sensible à ça, ou à certaines œuvres, elle continue là où les mots s'arrêtent. Je veux dire par là que on peut être vraiment habité, bouleversé par des musiques et ne pas en comprendre le sens profond de ce qui se dit. Souvent, le texte est perdu aussi. Quand la musique est trop belle, on perd le sens du texte, voire même on le comprend pas, ça n'a presque pas d'importance, assez souvent. Et donc, voilà. Dans cette œuvre-là, c'était ça. C'était la volonté de visiter, voilà, un monde imaginaire, un monde enfantin, à travers les sons. C'est très difficile de parler de la musique. Maurice Ravel, il aimait ce pays. Il n'est pas entièrement d'ici, il a eu aussi une grande partie de sa vie qui était parisienne, mais il a eu un attachement fort au Pays Basque. Il écrivait en langue basque. On a des courriers dans lesquels il n'écrivait pas sans doute de longs textes, mais il y a beaucoup de formules de politesse, de remerciements qu'il met en langue basque quand il écrit ici. Par des témoignages, on sait qu'il parlait un petit peu le basque, hein. Sa mère lui a transmis quand même cela. Et il aimait ce pays. Il aimait ce pays. Plusieurs fois, il a écrit dans ses courriers, on m'accuse souvent de sécheresse, mais nous les Basques, on se confie peu et seulement à nos proches. Et il a bien dit nous les Basques, voilà. Alors maintenant que j'ai défendu la part basque de Ravel, oui, je l'aime beaucoup, et pas uniquement parce qu'il est basque, parce que finalement, la sensibilité musicale, encore une fois, ne peut pas être filtrée par la langue. Je peux aimer la langue particulièrement dans une œuvre, mais trouver l'œuvre inintéressante, ou en tout cas qui ne me touche pas à moi. Voilà. Et donc, c'est parce que c'est un compositeur, un des phares de la musique mondiale, quoi. Il faut savoir qu'à son époque, dans les années 30 par exemple, il était un des seuls Français qui a pu faire des grandes tournées américaines et qui a été acclamé comme une grande star, qui a rencontré aux États-Unis des très grandes stars parce que sa musique était un véritable soleil, quoi. Il n'y avait pas de musique comme ça à cette époque-là. Donc c'est un immense musicien, et pas uniquement pour le boléro. Le boléro, il a gagné beaucoup d'argent. Il a été d'ailleurs assez surpris du succès inattendu de cette œuvre-là pour lequel il n'en espérait pas tant, mais pour toute son œuvre. Alors oui, c'est un des musiciens d'abord qui m'ont fait choisir ce métier. Ça, c'est très important. Je pense que la musique classique et romantique, au début où j'ai commencé la musique, j'ai commencé assez tard, au début où j'ai commencé la musique, je pense que n'aurait pas suffi à déclencher ma passion, mais toute la musique qu'on appelait toujours la musique française, Debussy, Ravel, etc., là oui, là ça a été vraiment un gouffre dans lequel j'ai voulu sauter dedans et pour voir un petit peu ce qui s'y passait, quoi. C'est vraiment ça qui m'a entraîné vers la musique. Et donc ce compositeur, oui, en fait partie au plus haut point. J'avais presque jamais touché à la musique basque, pour tout dire. Beaucoup au sentiment basque, au texte basque, oui. Mais à la musique réellement basque, non. J'ai toujours pensé que la musique basque, elle était belle comme ça, même a cappella. Et dès qu'on commençait à l'harmoniser, à la mettre dans un contexte, on faisait un peu une musique de salon qui perdait un peu son sens fort, quoi. Et il y a un an, j'ai eu une commande dans ce sens-là. Je me dis, allez, on va y aller. Et donc, j'ai écrit une série de folk songs sur des très très beaux thèmes sous le thym. Un thème labourdin, un thème sous le thym. Et bon, j'ai fait deux œuvres pour six voix d'hommes et six instruments. Donc voilà, ça c'était une œuvre autour de la culture basque. Nous sommes en train de préparer aussi une pastorale urbaine avec un ensemble d'artistes de la région, avec Itziar Borda aussi, qui a écrit les textes. Donc une relecture de ce qu'est la pastorale traditionnelle avec des musiciens actuels, un piano sur scène, enfin une configuration inhabituelle. Sans ambition de reformuler ce qu'est la pastorale, mais voilà, une œuvre libre qui marchera pas, on verra bien. Vous savez, avec tous les drames qu'il y a sur Terre, les TGV qui nous passent sur la figure, etc., c'est des questions qui n'ont pas beaucoup d'importance, quoi. Savoir si on touche à un canon esthétique comme ça, on est libre, c'est pas grave. Et si on dépasse un tout petit peu les canons habituels, ma foi, tant mieux, ça ne va pas bouleverser le sens de la tradition basque, donc la chaille.
Radio Cultura.
Point com.